à tous. Bienvenue dans votre émission internationale avec RFI et le journal Le Monde. Très heureuse de vous retrouver. En 7 ans, plus de 400 000 personnes sont mortes en Syrie, victimes notamment de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Notre invitée, Catherine Marquis-Huel, a été juge. Elle a été choisie il y a un peu plus de 6 mois par les Nations Unies pour réunir des preuves qui permettront peut-être un jour que les auteurs de ces crimes soient traduits en justice. Mercredi dernier, cette magistrate a envoyé son premier rapport aux Nations Unies. Pour ouvrir ce magazine, je vous propose d'écouter ces témoignages d'anciens prisonniers syriens. Ils racontent la torture et leurs conditions de détention.
Il y avait un détenu de Damas. Il l'emmenait 2 fois par jour pour l'interroger et il ne lâchait rien. Au bout d'une semaine d'interrogatoire, il est revenu couvert de sang. Sa peau, il suffisait de la toucher et elle se détachait. C'était une torture horrible.
J'ai rencontré un détenu âgé de 15 ans qui était là depuis 9 mois. Il n'avait que la peau sur les os, aucun muscle, juste les os. On pouvait voir sa cage thoracique.
Ça s'appelle Shabeh. Il vous lie les bras, les mains, et commence à vous soulever. Il vous soulève en se servant d'une sorte de corde, et il continue à soulever jusqu'à ce que votre corps soit tout droit. Vous êtes sur la pointe des pieds. Je me suis mis à tousser du sang. Et mes poumons sont vraiment, vraiment endommagés. Et je pissais du sang aussi.
Bonjour, Catherine Marquis-Huel. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous avoir réservé votre première interview après votre rapport communiqué il y a 4 jours aux Nations Unies. On vient d'entendre ces témoignages. Des témoignages de cet ordre, vous en recueillez tous les jours, des photos, des films. Comment garde-t-on sa neutralité, son impartialité quand on est juge ou qu'on a été juge et que l'on est confronté à de tel témoignage?
Je pense que c'est pour nous vraiment l'indépendance et l'impartialité, ce sont vraiment les principes qui guident notre action.
Oui, mais humainement.
Humainement, c'est difficile. C'est quelque chose qui vous affecte. Et je pense que en être conscient, savoir que vos collaborateurs peuvent être soumis à des traumas secondaires. Je n'essaie pas ici de comparer ce que des victimes de crimes peuvent ressentir et ce qu'un professionnel qui travaille sur ces crimes ressent. Mais il faut en être conscient. Ça n'est pas neutre.
Ce n'est pas neutre, mais votre neutralité est facile à conserver face à ces témoignages. Vous parlez d'impartialité, mais il n'y a pas un sentiment de révolte malgré tout quand vous entendez des choses ou vous retrouvez face à des documents extrêmement difficiles?
L'impartialité, c'est la raison d'être. Si nous commençons à aborder ce travail qui nous a été confié par l'Assemblée générale en prenant parti pour ou contre certains des personnes qui ont pu être déclarées par tel ou tel organe d'établissement de fait responsable, c'est la fin de notre travail. Notre travail, c'est de partir des preuves, des éléments d'information qui peuvent nous permettre d'identifier des preuves, de les collecter, de les authentifier, de les préserver, c'est un point très important, de les analyser. Et à partir de là, de constituer des dossiers qui pourront aider les enquêtes et la poursuite des crimes.
Alors on va revenir sur votre travail, mais avant de poursuivre cet entretien, un rappel avec Mévalo et Benoît Tricot de la mission que vous conduisez pour les Nations Unies.
Bombardements intensifs contre des hôpitaux, des écoles ou des convois humanitaires, attaques à l'arme chimique, exécutions sommaires, enlèvements, tortures, viols. En Syrie, la population civile est toujours en première ligne. Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, impunis. C'est pour que ces atrocités ne tombent pas dans l'oubli que le patron de l'ONU vous a nommé à la tête du mécanisme international impartial et indépendant sur la Syrie.
Je me sens à la fois fière et particulièrement humble d'avoir été choisie pour relever ce défi.
Une tâche que vous savez difficile, mais votre expérience auprès du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, des chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens ou encore de la mission des Nations Unies au Kosovo a fait de vous une experte de la justice internationale et de la barbarie en temps de guerre. Sauf que cette fois, vous travaillez sans savoir par qui, où et quand ces crimes seront jugés. Votre mission est de rassembler, préserver, analyser les preuves et de préparer des dossiers en cas de poursuite ou de procès.
Le conflit syrien était désigné comme le conflit le plus documenté dans le monde. Le volume et la variété des données électroniques potentiellement pertinentes, recueillies par des particuliers, des ONG et d'autres entités, sont sans précédent.
Des témoignages, des vidéos, des photos à partir desquelles la commission d'enquête internationale de l'ONU, créée en août 2011 au début du conflit, a rédigé une quinzaine de rapports, mettant en cause aussi bien le régime syrien que les rebelles et les djihadistes.
Génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, violation des droits de l'homme, violation continue et volontaire du droit international humanitaire, ce non-respect des normes internationales et des notions fondamentales de l'humanité ne doit pas continuer à être négligé.
Au moment de prendre vos fonctions, vous disiez vouloir aller vite. Il y a 4 jours, vous avez remis votre premier rapport sur l'enfer syrien.
Catherine Marquis-Huel, Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad du journal Le Monde nous ont rejoints. Alors, ce nouveau mécanisme que vous dirigez n'est pas un tribunal. À qui allez-vous remettre vos dossiers quand ils seront bouclés? À quel procureur?
Alors, nous pourrons les remettre... Nous pourrons les remettre à des procureurs nationaux, régionaux ou internationaux, en fonction de l'évolution de la situation et de la disponibilité d'instances internationales ou régionales dans le futur.
Oui, aujourd'hui, il n'existe pas de tribunal pénal international et la Cour internationale de justice n'a pas pu être saisie.
C'est exact. Donc, nos interlocuteurs, la première réponse, si vous voulez, pour transmettre des dossiers actuellement ou des éléments de preuve, sans parler de dossiers complets, ce sont les juridictions nationales.
Catherine Marquis-Huel, en quoi consistait le premier rapport que vous avez remis? C'était quoi exactement? C'est un rapport d'activité? Ce sont des dossiers déjà?
Ce rapport n'est pas public encore, mais c'est l'occasion d'un bilan. 6 mois après avoir pris la direction de ce mécanisme, c'est l'occasion de présenter la vision que j'ai de notre mandat, que nous avons testé pendant 6 mois, vraiment, de manière régulière, ajustant la vision à la réalité. Tester comment? Bien, en prenant contact avec un certain nombre d'interlocuteurs qui sont des États, qui sont des procureurs nationaux, qui sont les communautés affectées par les crimes, les ONG syriennes et internationales, et bien d'autres encore, la commission d'enquête évidemment. Donc, nous testons cette vision et nous l'affinons en fonction de ce qui est possible de faire et de ce qui sera le plus utile en ce moment.
Mais alors justement, il y a des justices nationales qui enquêtent déjà sur des dossiers. Il y a eu des procès et des condamnations en Suède, en Autriche notamment. Est-ce que il n'y a pas un risque que vous marchiez sur les pieds, c'est-à-dire que vous enquêtiez sur des dossiers sur lesquels enquêtent déjà des justices nationales ou est-ce que vous coordonnez?
Mais justement, la coordination, c'est vraiment le point de départ. Et quand je parle de tester la vision, il fallait évidemment, même si j'avais cette idée avec mes collaborateurs, que nous avions un rôle à jouer déterminant d'articulation avec les juridictions nationales, il fallait évidemment vérifier si elles étaient prêtes à le faire. Et je dois dire que les unités de crimes de guerre avec lesquelles nous avons très précisément engagé cette collaboration depuis déjà plusieurs mois, elle nous donne un retour qui est positif. En fait, ces unités de crimes de guerre, ces procureurs, ces officiers de police judiciaire, ils travaillent avec des ressources souvent limitées. Ils ne peuvent pas se focaliser exclusivement sur la situation syrienne. Ils n'ont pas toujours l'assistance en termes de linguistique ou d'analyse qui serait nécessaire pour des faits de grande envergure et des crimes de masse ou des crimes tels que ceux que vous avez décrits. Ce sont les crimes internationaux dont nous avons vocation à nous saisir. Et donc, évidemment... c'est très encourageant de savoir que ces juridictions-là, ces procureurs, ces officiers de police judiciaire, ils souhaitent travailler avec nous. Et notre rôle, pour éviter ce que vous décriviez, ce qui est un vrai risque, c'est justement de bien comprendre ce dont ils ont besoin. Et alors que nous collectons les éléments de preuve ou l'information qui peut nous permettre de nous mettre sur la piste de preuve, de faire cette collection, non seulement avec un œil sur les dossiers que nous allons montée de toutes pièces à partir de cette collection et de l'analyse des preuves, mais aussi venant en soutien de ce que les juridictions nationales font. Il y a deux vraiment limites à cette coopération avec les juridictions nationales. Nous parlons de juridictions qui respectent les droits de l'homme et notamment le droit au procès équitable et qui n'appliqueront pas la peine de mort. C'est vraiment
Catherine Marquivel, vous avez déjà une longue expérience dans le domaine de la justice internationale. Je voudrais savoir quelle est votre vision sur ce qui s'est fait, que ce soit dans l'ex-Yougoslavie, au Rwanda, au Cambodge. Selon vous, quel a été le type de juridiction qui a le mieux rempli son rôle?
Moi, vraiment, je vois les juridictions internationales comme travaillant en complémentarité de toute manière avec d'autres juridictions. Aucune juridiction la mieux équipée possible n'a la faculté de traiter tous les crimes qui, dans la situation syrienne particulièrement, mais également dans les situations que vous avez décrites avant. Donc, une juridiction comme les tribunaux ad hoc, ça a été vraiment la possibilité pour les juridictions internationales, la justice pénale internationale, de travailler et de faire une sorte servir de tremplin, si vous voulez, à des justices nationales qui ont pu ensuite prendre le relais. Les tribunaux ad hoc, ils ont référé des affaires en ex-Yougoslavie, au Rwanda, parfois à des juridictions nationales en Europe ou ailleurs. Et donc, effectivement, ce travail de coopération-là, il n'est pas nouveau. Mais je pense que nous avons, avec le mandat du mécanisme, une sorte d'urgence et d'obligation de travailler encore plus dans ce secteur-là.
Vous vous dites qu'il ne faut surtout pas arriver comme dans le cas cambodgien où Pol Pot est mort avant d'être jugé. Il faut éviter d'attendre 30 ans.
C'est clair que la situation à l'époque ne permettait pas. Le Cambodge n'aurait pas demandé à l'ONU, ce qui a été finalement ce qui a été le cas, de demander à l'ONU de l'assister à créer des juridictions en droit interne, mais avec la présence de juges internationaux et de procureurs internationaux. Il faut éviter ça absolument. Mais vous savez, le travail préparatoire que nous sommes mandatés pour effectuer, c'est un travail complexe, de longue haleine. C'est pas un travail colossal qui nous fait peur parce qu'on sait le faire, mais c'est un travail qui demande énormément de rigueur, justement pour éviter suspicion de manque d'indépendance ou d'impartialité. Il faut des méthodes de travail rigoureuses. La sélection de dossiers, ça va nous obliger à effectuer des choix. On ne peut pas, on n'aura pas nous-mêmes la capacité, avec une soixantaine de personnes, quand nous aurons toute notre équipe en place.
Vous êtes une quinzaine pour l'instant.
Nous sommes une quinzaine actuellement.
Alors, revenons au cas de la Syrie. On comprend bien que, parce qu'il n'y a pas pour l'instant de justice internationale qui peut passer, il n'y a pas de tribunal pénal international, que ce sont donc les tribunaux nationaux qui peuvent se prononcer. C'est ce qu'on appelle la compétence universelle.
Pas seulement. Certains tribunaux peuvent exercer la compétence universelle. D'autres font des enquêtes en exigeant, conformément à leur droit interne, des liens de rattachement. Ça peut être une victime de la nationalité de l'État. Ça peut être un suspect qui se trouve sur le territoire au moment où on engage les enquêtes.
Mais alors, est-ce que cette compétence universelle peut permettre, par exemple, de mettre en accusation un dirigeant, comme par exemple le président syrien, Bachar al-Assad? Et est-ce qu'un tribunal national peut juger un dirigeant comme cela?
La compétence universelle, elle ne s'applique pas à... elle ne distingue pas entre les auteurs des... les personnes qui sont suspectées. Donc, sur le principe, c'est possible.
C'est possible.
Maintenant... je crois qu'il faut bien entendre, vous avez évoqué des crimes attribués par certaines commissions et par la presse et par
les ONG,
au régime. Vous savez très bien que la commission, elle a aussi, je parle là de la commission d'enquête pour la Syrie de l'ONU, mais bien d'autres, ils ont aussi dénoncé des crimes de toutes les parties au conflit.
Bien sûr, bien sûr.
Beaucoup de parties au conflit. Donc, il faudrait éviter de penser que notre mécanisme va être polarisé certains crimes en fonction des affiliations des personnes éventuellement suspectées pour ces crimes. C'est très important aussi en termes d'impartialité.
Mais justement, on parlait de compétences universelles. Jusqu'à présent, à part l'affaire Hissène Habré, On a quand même l'impression que dès qu'on touche à un niveau de responsable, chef d'État, je pense à Pinochet, je pense à Ariel Sharon, etc., on est plus dans une forme de déclamatoire qui s'écroule juridiquement, puisque ces tentatives de coincer, enfin, ou de juger Pinochet ou Ariel Sharon n'ont mené à rien. Le seul dirigeant, enfin, et même ex-dirigeant plutôt, qui a été jugé, c'est au nom de la compétence universelle, c'est Issiane Abré, non ?
Oui, mais les tribunaux, c'est pour ça que les tribunaux internationaux sont aussi importants dans ce panorama des possibles. Bon, d'une part parce que, en fonction des crimes dont on parle, le volume peut être aussi particulièrement difficile à gérer pour des juridictions nationales, et puis aussi parce que je pense que c'est un peu l'ordre des choses quelque part.
C'est un enjeu politique, vous voulez dire ?
Pas seulement un enjeu politique. L'enjeu politique, il s'applique aussi sur. C'est aussi ce qui empêche actuellement que l'affaire soit renvoyée à la Cour pénale internationale. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le champ des possibles, à l'avenir et actuellement, ce qu'il faut, c'est vraiment une articulation. Ça paraît peut-être plus logique que certains faits éventuellement soient renvoyés devant une juridiction internationale plutôt qu'une juridiction nationale. Mais si...
Donc vous voulez la création d'un tribunal pénal international, clairement.
Moi, je souhaite que la justice soit rendue. Et je pense que...
Elle sera mieux rendue devant un tribunal pénal international.
Je ne dis pas qu'elle sera mieux rendue...
Au niveau, c'est-à-dire pour des dirigeants.
Je ne dis pas qu'elle sera mieux rendue, je dis qu'il faudra une articulation de toutes ces possibilités-là.
Est-ce que vous excluez...
Une cour régionale, c'est pas non plus une mauvaise idée en fonction de l'évolution de la situation.
Est-ce que vous excluez d'emblée une procédure qui s'attaquerait uniquement à traiter les crimes de l'État islamique, de l'organisation de l'État islamique ? Est-ce que c'est totalement exclu ? Est-ce que forcément la procédure prendra en compte les diverses parties en conflit ?
En tout cas, dans notre sélection de dossiers, comme je disais... qui oblige à faire des choix, il est clair que nous voulons donner une représentation équitable, raisonnable, de la totalité des grands types de crimes sur lesquels nous allons enquêter. Je pense que ce serait vraiment ne pas montrer notre indépendance que de nous focaliser uniquement sur certains de ces crimes. Donc, nous n'avons pas de limite dans le mandat à ce sujet-là. Et c'est bien comme ça que nous entendons l'exercer.
Alors, la commission d'enquête sur la Syrie a souligné dans un de ses rapports que l'an dernier, que la bataille d'Alep, entre juillet et décembre 2016, avait donné lieu à d'innombrables crimes de guerre, à la fois commis par le régime et aussi par l'insurrection. Elle met en cause également un État comme la Russie qui a bombardé des hôpitaux, des écoles, des marchés, faisant des centaines de morts. Peut-on imaginer que ce pays se retrouve un jour sur le banc des accusés ?
Écoutez, ça serait pas approprié pour moi de faire des déclarations comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Notre rôle, c'est véritablement de ne pas faire nôtre les conclusions d'autres commissions. Il y a une raison très simple à ça. Notre travail, c'est véritablement d'utiliser les standards, les méthodes de travail du droit pénal. Et vous savez très bien, l'opinion publique, un article très fouillé journalistique, une commission d'enquête... applique des critères et des méthodes de travail qui sont différentes, qui ne sont pas l'apanage du droit pénal. Nous devons, c'est notre raison d'être, appliquer ces standards. Donc, quand nous adopterons nos conclusions, à la suite de ce travail de collection et d'analyse, là, nous serons en mesure de répondre à votre question.
Donc, Catherine Marquiel, est-ce que, par exemple, les crimes de guerre entrent dans votre champ de compétences ? C'est-à-dire ceux commis par une armée dans le cadre des conventions de Genève,
oui,
etc.
Ce qu'on appelle les crimes internationaux, en général, comme ça a été dit dans le reportage, il y a trois grandes catégories de crimes internationaux qui, en fonction de la situation de savoir s'il y a un ou plusieurs conflits, la nature de ces conflits entraîne l'application d'une partie de ce droit, donc les crimes de guerre. Vous avez des crimes comme les crimes contre l'humanité qui ne requièrent pas l'existence d'un conflit et le génocide non plus, qui requiert d'autres éléments. Donc ça, ce sont les grandes catégories de crimes. Les conduites qui peuvent être à l'origine et qui peuvent, en fonction des circonstances, être qualifiées dans l'une de ces catégories, ces conduites, elles sont extrêmement variées. Vous en avez rappelé certaines dans le témoignage, mais on peut aller bien au-delà. Vous avez des actes d'exécution extrajudiciaire, vous avez des situations d'esclavage sexuel ou non, vous avez des décapitations sur la scène publique. Donc là, on parle des conduites, je ne parle pas en droit. Et ces conduites, en fonction des circonstances, en fonction du niveau de preuve qui est recueilli, on peut les les poursuivre.
Écoutez, merci Catherine Marcuel. Nous allons nous interrompre quelques instants. On se retrouve tout de suite. Restez avec nous. Retour avec notre invitée Catherine Marquis-Huel en direct sur TV5 Monde avec RFI et le journal Le Monde. Merci madame d'avoir accepté notre invitation. Poursuivons cet entretien avec les violences sexuelles, notamment ces viols commis à grande échelle en Syrie. Beaucoup de témoignages sont parvenus. On écoute un extrait d'un documentaire diffusé le mois dernier, Le cri étouffé de Manon Loiseau et Annick Cogent.
Ils ont violé mon amie devant moi. Ils l'ont violée. Une autre amie qui était enceinte, ils l'ont tellement violée qu'elle a accouché. Elle était enceinte de 7 mois et demi. Elle a accouché sous mes yeux. Si on m'avait raconté une telle histoire, j'aurais dit non, c'est impossible. Mais je l'ai vue de mes propres yeux. Nous avons toutes été violées.
Catherine Marquiel, les viols sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Vous avez travaillé sur d'autres conflits, comme l'ex-Yougoslavie, hein, où le viol était une arme d'épuration ethnique. En ce qui concerne la Syrie, ces crimes sexuels, vous apparaissent-ils dans les documents que vous recueillez d'une plus grande ampleur, si on peut faire une échelle dans l'horreur? Et souhaitez-vous, ou faut-il apporter une vigilance particulière à ces dossiers?
C'est difficile de parler d'ampleur, parce qu'en fait, c'est un domaine où... Obtenir des témoignages est complexe. Il y a un stigma qui s'attache souvent aux violences sexuelles, qui fait que les victimes ne veulent pas toujours ou ne sont pas toujours en mesure de parler. Et là, le reportage est intéressant parce que...
Vous l'avez vu, je crois.
J'ai vu ce reportage. Je discutais avec des personnes qui font ce travail et qui étaient même étonnées que des personnes acceptent de témoigner à visage découvert de ce qu'elles ont vécu. Notre mandat nous demande de porter attention et de rendre la dimension des crimes sexuels. Je précise d'ailleurs que même s'il semble que beaucoup de femmes ont été victimes, il y a aussi des hommes et des enfants qui sont victimes de ces crimes. Donc,
vous avez un mandat de regarder précisément
ça. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est indispensable parce que la pratique, vous parliez de ma pratique antérieure, la pratique nous a montré que si vous n'intégrez pas dès le départ dans votre équipe des personnes qui ont ce bagage, qui ont ces compétences pour enquêter et également analyser ce type de crime, vous ne vous dotez pas des moyens pour le faire correctement. Donc j'ai
précisément pour ce qui concerne les enfants, est-ce que vous prenez des précautions particulières? Est-ce que vous avez un mode opératoire particulier pour que la parole des enfants victimes ne soit pas mise en doute comme elle l'est parfois, très souvent, et que la victime ne se transforme pas en suspect?
Nous avons effectivement la volonté de ne pas réinventer la poudre dans ce domaine-là. Il y a un certain nombre d'organisations, dont l'UNICEF, qui ont établi des politiques qui sont recommandées pour entendre les enfants, et je pense que c'est important que nous prenions en considération ces documents, que nous discutions avec des personnes qui en Syrie ou autour de la Syrie ont la possibilité d'entendre les enfants, et que nous puissions effectivement développer une approche qui soit adapté. Je ne vous dirai pas que c'est fait complètement. Nous en sommes à la prise en considération de ce qui existe pour définir dans notre cadre ce qui est le plus adapté.
Catherine Marquiel, justement, vous avez travaillé sur l'ex-Yougoslavie et sur la justice post-conflit. Je pense aussi au Rwanda. Quel bilan tirez-vous de ces deux tribunaux spéciaux dans ce domaine précis-là? C'est-à-dire, est-ce que la dimension des crimes sexuels a été assez traitée ou pas assez, de votre point de vue?
Je dirais que les résultats ne sont pas égaux. Il y a eu une évolution. C'est vrai qu'on a appris des leçons au travers des travaux de ces tribunaux. On est mieux équipé aujourd'hui parce qu'on sait que ça demande une démarche volontariste. Et c'est des règles de base, hein, mais disons qu'elles n'ont peut-être pas toujours été appliquées de manière aussi large et aussi systématique qu'on l'aurait voulu. Donc ces tribunaux ont montré que c'était possible, montré qu'il y avait des choses à améliorer, et notre travail à nous, c'est de ne pas commettre d'erreurs à ce niveau-là, d'essayer de partir de ces constats et de...
En réalité, vous êtes quasiment en train de mener une instruction.
À Alors, bon...
Vous êtes à mi-chemin si,
on nous a décrit comme un organe de quasi-poursuite. D'abord parce que l'instruction, à part dans quelques pays, dont la France, voilà, c'est pas un système qui est généralisé.
Ça n'existe pas dans le droit anglo-saxon.
Ça n'existe pas dans le droit anglo-saxon. Et puis, à l'exception du tribunal pour le Cambodge, où il y avait des juges d'instruction, ça n'était pas non plus l'apanage des tribunaux ad hoc. Mais ce qui est très important, c'est que même si on est un organe de quasi-poursuite qui s'arrêtera au moment où il s'agirait de rendre des actes d'accusation, nous ne les rendrons pas, mais qui fait tout le travail préparatoire et notamment l'analyse nécessaire pour qu'un procureur gagne du temps quand il recevra nos dossiers, ce travail-là, en fait, il nous permet de le faire en intégrant ce que sont les principes d'une instruction, c'est-à-dire rechercher les éléments à charge et à décharge, les analyser et leur donner toute la dimension nécessaire. Je vais vous donner un autre exemple de...
Donc, ça veut dire que vous êtes tout de même favorable à ce qu'il y ait une instruction et à avoir une juridiction internationale qui fonctionne selon ce principe de l'instruction. C'est-à-dire que, en fait, l'enquête se fait avant et pas pendant le procès.
Oui, de toute manière, si c'est une instruction par un juge d'instruction ou si c'est une instruction par un procureur, l'enquête se fait avant le procès.
Oui.
Si on attend le procès pour faire l'enquête, ça, on sait à quelle catastrophe ça aboutit. Donc,
il y avait des tiraillements au Cambodge là-dessus.
C'est une situation politique compliquée, le Cambodge, donc effectivement. Alors,
si vous permettez, on va aller sur un autre dossier dont vous allez nous dire comment vous en saisissez. C'est parmi les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, il y a eu notamment l'utilisation, et il y a encore récemment, l'utilisation d'armes chimiques. Alors vous, comment allez-vous documenter sur ces dossiers-là? Comment allez-vous vous documenter? Et alors, c'est des crimes qui ont été commis des deux côtés. Il y a eu l'État syrien et il y a des suspicions aussi du côté du groupe islamique en ce qui concerne le gaz sarin.
Alors jusqu'ici, vous avez deux organes, en fait, dont un conjoint avec les Nations Unies, qui ont d'une part enquêté sur l'existence de l'utilisation d'armes chimiques. Je pense là à la commission... Enfin,
c'est la commission internationale
le fact-finding panel, donc le fact-finding mission, donc la mission d'établissement de fait de l'organisation pour la lutte contre la prolifération des armes chimiques, d'une part. Eux se sont fondés sur des éléments en appliquant, une fois encore, non pas un critère, des critères et des standards pénaux, mais les critères d'établissement de fait. Et vous avez ensuite un mécanisme conjoint entre les Nations Unies et cette organisation, le GIM, je ne connais plus l'acronyme français, qui, en fait, eux, leur mandat, c'était de regarder à qui pouvaient être attribués les crimes. Et effectivement, ils ont identifié
vous prenez ce travail-là et vous allez établir les preuves pour pouvoir déposer ce dossier sur la table d'un procureur.
Alors
le bureau d'un procureur.
À ce stade-ci, ce que nous essayons de faire, c'est deux choses. D'une part, essayer d'obtenir accès à ce matériel.
Vous n'y avez pas accès pour l'instant.
Pour l'instant, non. Et c'est assez logique parce qu'une grande partie de ce matériel, il a été donné, on imagine, par des États avec des conditions de confidentialité qui entraînent beaucoup de restrictions. Mais nous sommes en discussion avec le secrétariat pour voir à quoi nous pourrions avoir, le secrétariat des Nations Unies, à quoi nous pourrions avoir accès. Et puis, en parallèle, puisque ça c'est un processus dont nous ne connaissons pas le résultat, nous approchons individuellement certains États dont nous imaginons qu'ils ont pu recueillir ce type de preuves et nous essayons de les inciter à nous les communiquer.
Est-ce que vous pensez avoir un effet dissuasif? L'existence de votre mécanisme, est-ce que vous pensez que ça peut être dissuasif? Et comment vous réagissez au fait qu'aujourd'hui on parle encore de l'utilisation récente d'armes chimiques, de gaz sarin notamment, dans la bouche du secrétaire d'État américain à la Défense?
Vous savez, c'est difficile de parler d'effet dissuasif en matière... ça peut avoir un effet dissuasif, la poursuite, l'établissement de dossier, évidemment, c'est aussi en partie pour ça qu'on le fait. Mais on est bien placé, les professionnels de la justice internationale, pour savoir que ça n'a jamais empêché la commission continue de crimes. L'exemple de la Syrie est un bon exemple. Souvenez-vous, le tribunal pour l'ex-Yougoslavie était déjà établi, avait commencé, alors que le conflit faisait encore rage, ses travaux. Et Srebrenica, les événements de Srebrenica, le génocide est arrivé. Donc, il faut être prudent pour parler d'effet dissuasif. Moi, ce que je dirais, c'est que dans le choix de certains dossiers, il y a une dimension que nous avons la volonté, effectivement, de prendre en considération, c'est est-ce qu'éventuellement, monter un dossier sur ce type de crime-là peut avoir un effet dissuasif. Et
Catherine Marquivel, il y a eu tellement de crimes commis en Syrie. Je sais pas, on parlait du chimique, mais il y a les bombes barils, il y a etc., la torture, etc. Que sur lesquels vous allez vous concentrer, parce que sinon c'est infini. Enfin, il y a du travail pour des dizaines d'années.
C'est impossible de, et ce serait très malhonnête de donner l'impression que nous allons traiter tous les crimes, mais c'est en partie mon intérêt à participer à votre émission, c'est-à-dire de pouvoir informer le public et les communautés concernées de ce que ça ne serait pas possible. Donc il faut faire des choix, une sélection de dossiers en coopération avec ce qui se fait actuellement au niveau national, mais aussi pour les dossiers que nous allons traiter et qui auraient le cas échéant vocation à être transmis à des juridictions régionales ou internationales, ces critères, ces éléments que nous allons prendre en considération, ils vont se baser sur la sériosité des crimes, évidemment, la capacité de les étayer, mais aussi la volonté de donner, comme je le disais tout à l'heure, une représentation suffisamment fiable et raisonnable de l'ampleur des crimes, des origines.
Alors prenons un exemple très précis, par exemple. Il y a eu ces crimes perpétrés en Syrie contre la communauté yézidi. Cette minorité qui est très présente en Irak, il y a eu des milliers d'entre eux, notamment des femmes, qui ont été déportées, vendues comme esclaves en Syrie. Cette communauté, elle demande la reconnaissance devant les tribunaux du caractère génocidaire des exactions commises contre elle. Est-ce que vous allez vous saisir de ce dossier et comment on établit les preuves, les éléments d'un génocide, comme dans ce cas-là précis?
Alors moi, je vais être très prudente sur les qualifications, hein, parce qu'on saute très très vite à des conclusions, et une fois encore, nous n'irons pas faire nôtre les conclusions rendues par d'autres. Nous ferons notre propre analyse sur la base des éléments de preuve, non seulement qui ont pu être pris en considération par les entités qui ont rejoint ces conclusions-là, mais aussi d'autres, puisque nous avons cette vocation à collecter très large.
Hein. Et par exemple, sur ce dossier, vous allez travailler,
établir un dossier. Je ne vais pas vous donner aujourd'hui d'indications, des dossiers précis, comme je l'ai dit. Mm-hmm. Ce que nous avons fait jusqu'à présent avec mon équipe, c'est de réfléchir aux critères. Qu'est-ce qui nous permettra d'avoir une approche défendable? Qui montrera que nous avons agi de manière impartiale et indépendante. Nous n'allons pas nous soucier de ce que nous pouvons imaginer, de ce que pourraient être les agendas des uns ou des autres. Nous allons faire un travail professionnel et basé sur les preuves.
Catherine Marquivel, est-ce que votre capacité finalement à prendre en compte un certain nombre de crimes ne dépend pas de vos ressources? Est-ce que vous n'êtes pas donc lié par ça à vos ressources financières? Et comment est-ce que ça se passe? Comment vous cultivez votre indépendance de ce point de vue-là?
Alors, il y a eu un développement récent au mois d'octobre dernier en ce que l'Assemblée générale, qui avait initialement décidé que ce mécanisme serait financé par des contributions volontaires, a demandé au secrétaire général d'inclure les besoins financiers du mécanisme dans le budget pour l'année 2019-2020, je me demande si je ne suis pas en train de dire une bêtise. Bon, enfin, le prochain budget. Le prochain budget. Non, 2020-2021. Et ça ne veut pas dire que le budget sera adopté, mais en tout cas, il y a maintenant sur l'agenda cette volonté d'inclure le mécanisme. C'est très important là, pour la pérennité des enquêtes, pour la pérennité de notre travail, être en mesure de bénéficier d'un financement suffisant, c'est très important.
Et il y a transparence sur qui sont vos donneurs, qui sont
ceux qui contribuent. Oui, si vous regardez notre site internet, vous verrez la liste des États qui contribuent.
Christophe, une question.
Catherine Marquivel, je ne vais pas rentrer dans le détail des dossiers puisque vous ne voudrez pas me répondre, mais il va y avoir en France, dans pas très longtemps, toute une série de procès de djihadistes notamment, qui sont allés sur le terrain syrien. Est-ce que vos enquêtes peuvent contribuer à nourrir les dossiers qui seront présentés lors de ces procès, sachant que ça s'est passé sur le terrain syrien, que la justice française a des moyens limités et pas forcément les sources dont vous disposez?
S'ils sont poursuivis pour les crimes que nous
crimes
avons
de guerre,
vocation...
crimes contre l'humanité,
oui, c'est possible.
Si vous pouvez.
Mais sachant que ça peut arriver dans 2 ans.
Mais c'est pour ça que c'est très important, ce travail de coordination et de discussion avec les unités qui se focalisent sur ces crimes. C'est pour ça que c'était une des priorités. L'autre priorité, c'était effectivement de l'engagement avec la commission d'enquête et avec la communauté, la société civile syrienne et internationale. Mais vraiment, les unités qui traitent de ce type de dossier, ça a été notre priorité. Pourquoi ? Parce que c'est la perspective d'un impact plus immédiat, si vous voulez, que ne serait pas, à court terme, la perspective de monter des dossiers de fond en comble. Ce travail-là, vous savez très bien, ça prend du temps.
Est-ce que vous avez demandé aux autorités syriennes de pouvoir vous rendre en Syrie ?
J'ai demandé à être reçue par les autorités syriennes avec... Effectivement, le but, ça serait de pouvoir, à un moment donné, aller en Syrie, mais aussi d'engager les discussions avec les autorités syriennes, parce qu'elles ont aussi des éléments de preuve qu'elles pourraient fournir. Jusqu'ici, je n'ai pas été couronnée de succès, c'est clair, mais je ne vais pas arrêter là.
Ils vous répondent ou ils vous disent non ?
Je n'ai pas eu de réponse pour l'instant.
Est-ce que vous ne vous heurtez pas au problème aussi du déséquilibre sur le type d'information dont on dispose, du fait que ce conflit a été extrêmement difficile à couvrir, qu'il y a un afflux de documents livrés par la propagande de l'État islamique qui se vante de ces crimes, alors qu'il y a une culture du secret du côté du régime de Bachar al-Assad? Comment est-ce que vous allez équilibrer les choses?
Je pense que il faut voir cette question-là à la fois dans la dimension de la question que vous posiez précédemment, c'est-à-dire possibilité d'accéder au territoire. Actuellement, les moyens que nous avons d'accéder au territoire, à ce qui s'est passé sur le territoire, c'est des personnes qui en sont sorties, des personnes qui peuvent, le cas échéant, accepter d'utiliser les moyens de communication moderne pour fournir leur témoignage, mais enfin leur témoignage pour donner leur récit à ce stade-ci. Il est clair que vous allez avoir un trop plein d'informations. Quelque part, c'est le paradoxe. Mais moi, je fais une distinction.
D'un côté, mais pas de l'autre.
Il y a une assez bonne couverture d'une assez grande catégorie de crimes, d'après ce que je comprends. En revanche, il y aura effectivement des catégories de crimes pour lesquelles nous allons être en difficulté si nous ne pouvons pas avoir de communication. Puis la sécurité des témoins, vous savez, ça va être un problème majeur. Une personne peut avoir accepté de partager son récit avec une ONG ou
avec un journaliste.
C'est très différent. En général, parfois les noms, les personnes ont communiqué à visage découvert, c'est assez rare. Et quand elle...
Le nom après dans le dossier
d'instruction. Après, c'est la volonté d'accepter de témoigner en justice. Et donc, effectivement, pour
des... Vous n'avez pas les moyens de protéger les...
Alors, nous n'aurons pas, ça c'est clair, les moyens nous-mêmes de protéger. Notre travail, c'est d'établir une coopération avec les États qui ont ce type de moyens. Dans les cas les plus graves, ça peut être de la relocalisation, ça peut être du changement d'identité, etc. Dans d'autres cas, ça peut être les mesures classiques qu'on apporte dans les crimes où les personnes sont les personnes qui viennent témoigner sont éventuellement en situation de risque autour du procès. Donc notre travail, c'est de convaincre des États que même si nous n'allons pas rendre d'actes d'accusation, même si nous n'avons pas à avoir nous-mêmes des procès, il faut qu'ils coopèrent et qu'ils...
Catherine Marquivel, une petite question assez technique, mais vous disiez vous-même devant l'Assemblée Générale que c'était le conflit le plus documenté probablement au monde, à cause de toutes ces vidéos, notamment tournées par des Syriens. Qu'est-ce qu'elles deviennent, toutes ces vidéos ? Parce qu'elles sont mises en ligne, elles disparaissent dans le cyberspace. Vous faites quoi ? Vous les stockez ? Est-ce que vous les analysez pour savoir quand elles ont été tournées, leur véracité, etc. Et est-ce qu'elles peuvent servir de preuve ?
Je vais vous donner 3 éléments de réponse là-dessus. Le premier élément de réponse, c'est que, comme vous le savez, un certain nombre des grandes firmes qui mettent qui sont les serveurs ou qui reçoivent ces vidéos, elles ont des obligations qui leur imposent de retirer certains des matériaux quand ils sont susceptibles d'être un encouragement à la commission de crimes ou avoir des contenus inacceptables. Notre travail, c'est de travailler avec eux pour que ces documents, quand ils sont enlevés, soient préservés et que nous puissions y avoir accès. Je serai...
Vous avez obtenu satisfaction là-dessus ?
Je serai dans la Silicon Valley la semaine prochaine, pour discuter de certaines de ces questions avec un certain nombre de ces firmes. Il y a déjà eu des discussions et je pense que c'est très important. Il y a une prise de conscience par ces entreprises que ce matériel, pour répondre à votre dernière question, peut servir de preuve. Je ne suis pas sûre que c'était nécessairement évident au départ, mais il y a eu des affaires, notamment la Suède a oui. jugé une affaire sur la base de vidéos, notamment de décapitation. Bon, il faut être prudent. Il y a des systèmes juridiques où ça pourrait être plus compliqué, mais je pense que c'est évidemment possible.
Pour poursuivre cet entretien, Catherine Marquivel, je voudrais vous faire entendre cette réaction de Carla Del Ponte. Hein. Elle a été procureure générale du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Elle était surtout membre de la commission d'enquête indépendante de l'ONU sur la Syrie, dont elle a démissionné en août dernier. Voici ce qu'elle a dit de la commission. On écoute.
Cette commission est ridicule. Nous en sommes à la 7e année et nous n'avons rien fait. Donc quel est l'intérêt? Je démissionne, mais plus par provocation, comme un appel au secours pour les victimes de cette injustice. En Syrie, elles sont nombreuses, et j'en ai moi-même beaucoup rencontrées. C'est la volonté politique qui manque, et sans volonté politique, on ne fait rien.
Vous avez dit, hein, Catherine Marquivel, que vous compreniez la frustration de Carla Del Ponte, mais vous allez la tester, cette volonté politique, quand vous allez remettre vos dossiers à des procureurs?
Je pense que les procureurs sont pas des membres de la vie politique des pays. Ils agissent avec des règles éthiques et professionnelles qui leur rôle n'est pas de nécessairement répondre aux attentes des politiques. Mais la réalité, la volonté, la capacité de pouvoir poursuivre, oui, évidemment, on sera confronté à cette réalité-là.
Est-ce que vous ne risquez pas d'arriver relativement facilement à incriminer les exécutants des basses œuvres et avoir du mal à remonter la chaîne de commandement?
Il y a tout un travail de ce qu'on appelle le lien, hein, entre les crimes. Bon, ce qui est clair, c'est qu'il y a plus actuellement de travail qui a été fait pour documenter l'existence des crimes eux-mêmes. Mais il y a aussi du travail qui a été fait pour documenter les liens. Et nous, c'est vraiment, si vous lisez les termes de référence de notre mandat, c'est véritablement sur ces vides au niveau de la preuve entre les crimes. Il y a du matériel qui existe. Notre rôle, un peu comme avec votre question sur les vidéos, notre travail, c'est d'authentifier. Il y a des documents qui existent, les authentifier, les corroborer. Donc c'est tout ce travail de fourmi que...
Il existe déjà une liste, hein, de noms qui, paraît-il, sont dans un coffre fort à Genève, hein, qui ont été remis par la commission d'enquête. Est-ce que vous allez vous servir de ces listes? Est-ce que vous allez les instruire? Établir des dossiers, parce que vous n'êtes pas un juge, mais en tout cas, établir des dossiers.
La liste de noms, ce n'est pas une preuve. Nous, on recherche des preuves.
Mais vous allez utiliser quand même ces listes? Vous allez demander à avoir accès à ces listes?
Nous sommes en pourparlers avec la commission pour avoir accès à tout ce qu'ils peuvent nous communiquer. Nous sommes très près maintenant de signer un accord. Je pense qu'on s'est mis d'accord sur les grandes lignes. Nous ne voulons d'ailleurs pas nécessairement immédiatement collecter... tout ce qu'ils ont collecté eux-mêmes. Nous voulons pouvoir faire une collecte raisonnée qui ait du sens par rapport à notre stratégie de collection. Mais je ne sais pas, je ne connais pas la réponse à cette question-là. Je ne sais pas si cette liste serait communiquée. Et comme je vous dis, ce n'est pas vraiment ça le plus important. C'est le matériel sur la base desquels la commission a pu se fonder.
Catherine Marquivel, je reviens à ce que disait Carla Del Ponte, c'est qu'il manque une volonté politique. Vous avez travaillé sur l'ex-Yougoslavie, vous êtes aujourd'hui sur la Syrie. Quelle évolution vous voyez? Est-ce que finalement, la notion de droit international, la notion de justice internationale, est-ce qu'elle ne s'est pas affaiblie entre les pays africains qui contestent la CPI, la Russie, la Chine, qui veulent réimposer un monde d'intérêts nationaux, les États-Unis qui se retirent du multilatéralisme? Et on a l'impression que ça se réduit à l'Europe aujourd'hui et encore.
Ce sera la dernière question parce que nous arrivons à la terme. Vous avez une minute pour répondre.
J'ai une minute pour répondre. Bon, je pense que l'histoire et les leçons qu'on a tirées de ces tribunaux, c'est que justement la volonté politique, si elle n'existe pas à un moment donné, elle peut exister plus tard. Hein, qui aurait parié une seconde sur le fait que Slobodan Milosevic se retrouverait dans le doc, des personnes comme messieurs Karadzic ou Mladic, à un moment donné, c'était pas envisagé, ou des généraux croates. Ça a été très long pour arriver à ce type de coopération-là. Donc moi, je suis optimiste. Si je fais ce travail, c'est parce que je crois que nous pouvons préparer ce travail de longue haleine qu'il faut faire. Nous pouvons aussi être efficaces à court terme en soutenant les efforts nationaux. Et puis, il faut un brin de foi en la volonté politique.
Vous espérez que la justice passera. Voilà.
Totalement.
Écoutez, merci beaucoup Catherine Marquivel d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci Sophie, merci Christophe. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.
RFI. Over la.